Tu viens? Pourquoi tu ne veux pas venir? Hmm? Pardon? T'as envie de rester? Mais viens. Viens, après tu pourras rester. Viens. Mais viens. Tu t'en vas où?
Qu'est-ce qu'il y a?
Tu n'es pas au cours?
Non.
Et pourquoi?
Parce que...
Parce que quoi?
Parce que...
Il y a une raison, parce que c'est...
Non, parce que c'est tout.
Je ne peux pas comprendre ce qui se passe derrière, c'est qui suis, parce que... C'est toi qui pourras me le dire.
Attends, Tim, tout ça parce qu'il est là depuis l'année passée. Tim, il fait son show et tout. Ouais, fais pas si. Ouais, tu veux que je me lève? Tu veux que je te tape et tout? Il fait ça.
Ouais, à qui?
Mais à moi, en classe, et la prof, elle dit rien. Tu vois, je suis en classe et tout, il fait « Ouais, tu veux que je me lève ?» Je fais « Vas-y, lève-toi, mais attends, c'est pas un prof, la prof, elle dit rien du tout. »
Angèle.
Non, moi, je ne suis pas en classe, non.
Tu n'as pas, tu n'as plus c'était au cours de qui? De Cécile?
Bah, de Yasmine.
De Yasmine.
Mais elle ne peut pas, elle ne peut pas.
Mais elle ne peut pas tout comprendre, elle ne peut pas tout voir, elle ne peut pas tout.
Mais entendu, après, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme si t'étais pas le chef et l'a fait comme ça. Tu veux que je me lève?
Le problème en classe avec vous, c'est qu'on doit vous gérer. Gérer vos comportements et essayer de vous apprendre quelque chose.
Même c'est pas facile. Hein. Ici, c'est pas le chef.
Qui ça? Tim? Maman, il est loin d'être un chef ici.
Ouais,
ça va? Et si tu as des problèmes avec Tim, je pense que tu peux aller en parler aux autres, parce que aux responsables ou voilà. Mais si toi tu restes en dehors des cours, tu fais du tort pour Tim, alors que Tim est au cours maintenant.
Eh ben, je me fais du tort, tant pis.
Fais pas, c'est pas bien de te faire du tort. Allez, tu viens, on va en parler avec les responsables. Oh. Angèle, tu viens. Angèle. Angèle. Ok, ça va. On va s'arrêter là. Quand tu auras envie de me parler, je te tournerai le dos. Continue. Vas-y.
Avec ton fils.
Avec elle, ça va alors.
Donc nous sommes avec François-Xavier Drouet qui a réalisé un film La chasse au snark qui a été sélectionné au cinéma du réel donc à Paris, à Beaubourg. Et là on se trouve donc au festival Bobine Rebelle Creuse où tu fais partie des organisateurs. Voilà, c'est pour poser un petit peu le contexte. Mais donc moi j'avais vu le film La chasse au snark au cinéma du réel, que j'avais beaucoup apprécié, donc j'avais envie de profiter de cette occasion de Bobine Rebelle Creuse pour parler de La chasse au snark. Alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu le film en deux mots?
En deux mots, ça va être compliqué. Mais La chasse au snark, c'est un film qui suit une année scolaire dans un lieu qui s'appelle donc le snark. Qui est une école autogérée qui a été créée en 73 par des militants politiques issus des mouvements des années 60 et qui pour une bonne partie s'inscrivait dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle qui pour certains était passé par la clinique de la Borde et qui voulait fonder un lieu d'accueil pour des jeunes en souffrance et en situation de déscolarisation. Ils ont mis en place ce lieu où il y avait effectivement pour une part le principe d'autogestion, d'égalité de salaire, de rotation des tâches et pour l'autre un modèle thérapeutique qui s'inscrivait donc dans la psychothérapie institutionnelle. J'ai découvert ce lieu en 2008 où j'ai été invité à La Louvière, donc la ville où se trouve le SNARC, qui est à côté de Charleroi en Belgique. Et j'étais invité dans le cadre d'une résidence de réalisation. On m'a donné un budget pour réaliser un court-métrage en l'espace d'un mois dans cette ville. Et on m'a proposé de travailler au SNARC, donc par l'intermédiaire d'un des travailleurs. Et je me suis tout de suite rendu compte que la richesse du lieu, ça semblait complètement gageur de faire un court-métrage dans ce lieu parce que ça me semblait foisonnant, très très riche. Et j'ai eu une rencontre très très forte avec les travailleurs du lieu et avec les jeunes qui peuplaient le lieu à l'époque. Donc c'était en 2008, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait « Note pour un film au SNARC » et qui était en fait la note d'intention filmée d'un long-métrage que je voulais faire. J'ai mis 3 ans à l'écrire, 3 ans pendant lesquels j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur le lieu. Et ce qui m'intéressait, c'était comment le lien entre le mode d'organisation des travailleurs, donc l'autogestion, qu'ils appellent là-bas la gestion collective, et le modèle thérapeutique. Il se trouve que quand je suis arrivé dans le lieu, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé, de voir tous ces jeunes dont la moyenne d'âge était plutôt de 16, 17, 18 ans, et qui étaient bien, quoi. C'était... Le lieu se trouve dans des anciens locaux de la mine, donc dans une région qui a vraiment été sinistrée, désindustrialisée, au pied d'un coron, voilà, un endroit très très dur, et en même temps avec un parc, donc, tout un écrin de verdure. Et voilà, ce mélange de brutalité et de douceur. Et ces jeunes qui s'y trouvaient bien, qui avaient des liens très très forts d'un point de vue affectif avec les adultes, et moi dans lequel j'ai vraiment été accueilli, et voilà, bon, ça me semblait vraiment une évidence de continuer cette histoire. Et les 3 ans d'écriture ont été des années de crise pour le lieu, parce que les derniers fondateurs du SNARC, et dernière on va dire aussi figure charismatique et qui portait vraiment le projet politique, sont pour l'un d'entre eux décédés ou partis en retraite. Et moi, quand j'ai commencé mon tournage, le lieu était complètement en crise, parce que ceux qui voulaient remettre le système en question et le fonctionnement thérapeutique et l'autogestion sont sortis du bois. Et je me suis retrouvé dans un lieu en crise. Donc j'ai dû... J'anticipe sur une autre question, parce que j'ai oublié quelle était la question.
C'était le projet du film. Comment est né le projet du film ?
Voilà, le projet est né comme ça. Est né comme ça sur une rencontre, tout bêtement, mais bon, une rencontre qui évidemment qui n'est jamais le fruit du hasard. Hein. C'est un hasard de me retrouver à la Louvière dans ce lieu-là, et en même temps, la rencontre est née parce qu'il y a des affinités électives entre moi qui porte cette envie et puis les gens qui m'accordent leur confiance pour pouvoir filmer un lieu. Quoi.
Mais alors, du coup, qui sont ces jeunes ? Parce que toi, tu. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était un enseignement de type 3. Enfin, c'est un lycée. Ils sont là pour passer un examen ou pas du tout. Ils sont vraiment hors cadre scolaire.
Alors, le SNARC, ça accueille des gens, des jeunes de 12 à 18 ans. Donc, on va dire que ça va du collège au lycée. Et qui arrivent là par des biais différents, mais en général parce qu'ils ne tiennent pas en place dans le cadre scolaire. Donc, pour beaucoup, ils ont un parcours scolaire très chaotique. Ils sont fait virer de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 écoles. Et ils arrivent au SNARC pour des problèmes de comportement, de violence. Des raisons très différentes, parce que c'est le projet du lieu est aussi d'accueillir des jeunes avec des problématiques différentes. Et donc, il y a des jeunes qui sont dans des... situations effectivement de rupture familiale, d'autres qui sont dans des vraiment ancrés dans des problèmes sociaux, d'autres qui sont dans des problématiques d'ordre vraiment psychiatrique pour le coup. Et voilà, tout ça fait un petit monde. Et certains arrivent par décision du juge parce que on se dit que peut-être qu'un cadre plus ouvert, moins répressif leur conviendra mieux que le type d'institution auquel ces jeunes en général échouent, quoi.
Et du coup, on voit quasiment que des hommes en fait parmi les élèves, enfin que des garçons, sauf le personnage principal qui est une fille. Mais moi, je me posais la question. Donc, c'est la seule fille ou
Oui, mais ça, c'est très troublant. C'est aussi Il y a une réalité statistique qui font que les jeunes en échec scolaire sont en grande majorité des garçons. Les jeunes dans des problématiques de violence sont en majorité des garçons. Et voilà, en tout cas, c'est pas l'objet de mon film de réfléchir à ça. En tout cas, le SNARC, il se trouve que là, cette année-là, il y avait une trentaine de jeunes et il y avait 3 filles. Dont Angèle, qui est le personnage principal du film. Et donc oui, c'est un monde très masculin, en tout cas le monde des jeunes. En revanche, chez les travailleurs, c'est complètement mixte. Ouais.
ou du catch, j'aime bien. Et il est pas dedans, mais gars, lui c'est Big Show. Ah non, lui c'est Kane. Et Kane, il est, en fait, il est pas mince du tout, mais c'est un grand athlète et tout. Donc, par exemple, il fait des sauts hauteurs, des culbutes, des trucs comme ça, des saltos et tout. Et Rey Mysterio, lui, en fait, c'est comme un petit singe en fait sur le ring. Et c'est trop marrant parce que j'aime bien tous les trucs comme ça. Et ça, par exemple, c'est ma référente qui me l'a offert. C'est un petit doudou parce qu'en fait j'arrive pas à dormir. Et quand j'ai un truc dans mes mains, en fait j'arrive à dormir. Avant, je devais dormir avec un gant de toilette. Il est mignon, non? Ça, c'est ma mère.
Attends. Ça, c'est Sullivan, ça.
Et vous dites comme ça, joli.
Sully!
Il est en train de piquer sa crise.
j'ai reconnu sa voix. Sullivan, c'est Angel, viens!
Il est dans sa chambre.
Mais elle est où, sa chambre? Eh ben, tu vas, tu toques à sa fenêtre, tu fais Angel, elle t'appelle. Tu fais...
Elle m'aura roulé dans la gueule, je vais pas.
Oh! Est-ce tout? Tu vas pas, je te jure, je te pète tes dents.
Attends, hé,
ta gueule, vas-y, ta gueule.
Quoi, ta gueule. Comment ça, ta gueule?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je sorte?
J'arrive pas à garder mon sérieux.
Normal, t'es un type pas sérieux. Ah, dis-lui d'aller se faire enculer, qu'il vienne tout de suite. Ouais, ouais.
T'inquiète pas, enculé par tous les mecs qui sont ici, mais pas par lui.
Non, mais dis-lui sérieux que je dois lui parler.
Sérieux, mais quoi te parler?
Vous vous insultez beaucoup, papa?
Non, en fait, c'est comme ça ici. On s'insulte parce que si on parle tout doucement, si on parle gentiment, ça va pas.
Tu sais pas le dire, franchement, quoi?
Parce que ici...
Vraiment.
Ouais, bah dis-lui que là, il a eu ce fusiller, mais dis-lui qu'il doit vraiment venir. Mais ici, c'est par les insultes, parce que s'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de dialogue.
Okay.
Dis-lui, je te jure, je vais venir. En fait, je vais pas y aller.
Et t'as créé, on voit une relation proche aussi avec les élèves. Puisque ils ont l'air d'oublier la caméra. Je ne sais pas s'il y a des t'as travaillé avec eux, mais t'as travaillé sur une année, je crois. Mais en tout cas, on a l'impression. Alors il y a des moments où ils parlent intimement avec toi, plus d'autres moments où on voit. Bon, il y a beaucoup de violence, hein, puisque c'est des jeunes en difficulté. On voit les éducateurs en train de discuter avec les jeunes, et on a l'impression qu'ils oublient la caméra.
Ouais, mais ça c'est toute la question du travail documentaire. Hein. C'est alors moi je crois pas qu'on n'oublie jamais la caméra en fait. Moi je pars du principe qu'on a toujours conscience que la caméra est là et je suis d'ailleurs souvent gêné par les situations où les gens ont tendance à oublier la caméra parce que ça peut être des situations un peu impudiques justement. Et moi je pars du principe que je me cache pas. Je suis là avec ma caméra qui prend une certaine place, avec un ingénieur du son qui prend aussi beaucoup de place. Et je ne cherche pas du tout à me faire oublier, justement, je cherche à me faire accepter. Et en tout cas, dans ce film, à aucun moment, je me suis imposé. C'est-à-dire, j'ai toujours laissé la liberté aux gens de m'accepter ou pas dans les situations où je me retrouvais. Et les jeunes savaient très bien dire non. Ils savaient très bien dire non, là, pas maintenant, coupe ta caméra, etc. Et il y a eu un long travail d'approche sur cette année scolaire, donc j'ai filmé. Et j'ai beaucoup tourné les deux premiers mois. Il n'y a pas une seule image qui est restée. Je crois que la première séquence du film, au bout du troisième mois, Et parce qu'il a fallu ce temps-là pour créer le lien, pour que voilà, ils comprennent que moi je suis moi, et pour qu'ils comprennent un peu ce que je cherchais à faire et qu'ils me fassent confiance, quoi. Et ça, ça y a pas de secret, c'est que avec le temps, quoi. C'est que passant des moments et souvent sans filmer, d'être accepté moi en tant que réalisateur et aussi en tant que monde extérieur, parce que quelque part pour eux, il a fallu un moment pour qu'ils m'identifient comme un adulte, mais qui est extérieur à l'institution. Et donc j'étais aussi une soupape pour eux. J'étais aussi quelqu'un qui n'avait pas assumé les situations d'autorité, qui n'était jamais là à leur dire faut aller te coucher, faut faire ci, faut faire ça. Donc situation privilégiée par rapport aux autres adultes, et qui représentait le monde extérieur. Et les moments d'entretien avec les jeunes, je pense que leur force dans le film, c'est justement parce que au-delà de moi, ils s'adressent au monde extérieur.
D'accord. Et autrement, alors du coup, comment tu as choisi tes personnages ?
Alors, est-ce que c'est moi qui ai choisi mes personnages ou est-ce que c'est eux qui m'ont choisi ? Il se trouve que les personnages qui sont restés au montage, c'est ceux avec qui il s'est passé quelque chose, quoi. C'est ceux avec qui il y a une relation qui s'est créée. C'est ceux avec qui... avec qui moi je me sentais à l'aise, à qui je sentais que, en tout cas, il y avait le fait moi de les filmer, ne les mettait pas à l'aise et leur apportait quelque chose aussi, je pense, qu'ils avaient peut-être aussi un certain plaisir à passer du temps avec moi. Il y a certains jeunes qui sont vraiment dans des problématiques type psychiatrique assez lourdes. Enfin, pas lourdes, pas aussi lourdes que bon, il n'y a pas de cas d'autisme grave, etc. Mais en tout cas, vraiment des problématiques psychiatriques avec lesquelles je ne suis pas vraiment à l'aise. Parce que je sais que ces jeunes-là, leur image ne leur appartient pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience justement de leur image. Et du coup, c'était très compliqué pour moi. En tout cas, les jeunes qui se retrouvent dans le film, tous ils avaient très fort conscience de leur image. Et je savais qu'ils étaient capables de sortir du champ de la caméra quand ils n'avaient pas envie d'être filmés ou de me dire de façon très très directe que ce n'était pas le moment. Et donc, il y avait quelque chose de possible à faire avec eux. Et donc ça, c'était une première chose. Et effectivement, la deuxième chose, oui, c'est le lien qui s'est créé. Et avec Angèle, il s'est passé quelque chose. Angèle qui est là très présente dans le film. Et d'autres avec qui, ben voilà, ils ne sont pas dans le film. Parce qu'aussi, des fois, j'ai eu des antipathies très très fortes avec certains jeunes. Et puis eux qui ont une antipathie très très forte pour moi et que je ne saurais vraiment pas expliquer. Voilà, c'est comme ça.
Moi, je me pose des questions par rapport à Angèle. Alors, c'était peut-être pas le questionnement que toi, tu avais, mais c'est vrai qu'on la voit dans le film. Alors, effectivement, on voit, c'est peut-être la seule femme, enfin, la seule jeune qu'on voit donc, de sexe féminin. Et elle est très virile, enfin, elle est très dans les codes masculins. Alors, je me posais la question, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le contexte qui fait qu'elle est obligée un peu de se comporter comme ça pour être acceptée dans le groupe ?
Alors... Oui, Angèle, beaucoup de gens m'ont fait la remarque, mais pendant un très long moment du film, j'ai cru que c'était un garçon. Et elle a une manière de se comporter, c'est une gamine qui a passé sa vie en institution, donc dans ces milieux comme ça très durs, avec une majorité de garçons, et dans une séquence du film où elle me parle un petit peu de, moi je parle un peu du rapport aux autres, comme la façon dont ils ont s'adresser les uns aux autres et que je trouvais très dur et de façon de s'insulter. Et elle m'explique très 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 très, très simplement, ah bah oui, mais ici c'est comme ça, quoi. Si tu veux être entendu, si tu veux, faut que ça passe par les insultes, sinon il n'y a pas de dialogue. Donc elle a complètement intériorisé avec une grande intelligence, hein, la façon de survivre dans ces milieux, dans ces lieux-là. Même au SNARC, qui est un lieu qui, voilà, qui, en tout cas, qui se revendique comme non répressif, qui est ouvert, où on peut. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de clôture autour, etc. Il y a quand même, voilà, on reste dans une institution avec une violence d'institution. Et elle a complètement intégré les codes, et je pense pour les filles, ça passe par. En tout cas, elle, la réponse qu'elle donne, c'est d'être. De se comporter en garçon, quoi, d'être plus dur que les garçons, d'être. De répondre du tac au tac aux insultes, de menacer de violence, etc. C'est sa réponse à elle. Les deux autres filles étaient dans des registres différents. En tout cas, dans le processus du film, et ce que je montre un petit peu dans le film, c'est que parce que aussi il y a un lien qui commence à se créer avec les adultes par rapport à la première séquence du film où elle est très très en rébellion, très très en colère face à l'institution et face aux adultes qui l'incarnent. Il y a une relation qui se crée et elle s'adoucit et elle va vers une... Je suis pas à l'aise avec ces termes-là, mais une sorte de féminisation un petit peu. À un moment, elle se met du rouge à lèvres. Hein. Je dis pas que c'est forcément quelque chose de positif. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans son attitude par rapport à ça.
Et pourquoi t'as mis cette photo ?
C'est Georges Brassens.
C'est qui ?
La vie était dedans. Georges Brassens, c'est un chanteur français.
C'est pas lui. C'est Jean-Pierre.
Mais non, le photographe s'appelle Jean-Pierre. Oh !
Attends, je la rejoue à la
vie. Non. Ouais, c'est ça.
Vincent, on sait plus quoi faire, nous, là. Tu distribues des claques, maintenant. Pourquoi t'as giflé, Max, hein?
Moi, qui m'aurais regardé droit dans les yeux, comme ça, l'air... je sais pas, l'air... un air bizarre, comme ça. Puis... Là, commence à mal lui parler, puis ça m'a cassé la tête. J'ai fait, ma main est partie. Ouais, je l'ai tarté. On peut pas aller droit au but. Reviens-moi chez moi, me casse pas la tête.
Tu veux qu'on téléphone chez toi ?
Servira. Moi, je vous dis parce que je vous vois arriver de loin. Je sais pas pourquoi.
Seulement tu pouvais voir arriver de loin. Qu'est-ce que ça me ferait économiser comme salive ? Qu'est-ce que ça me rendrait heureux par rapport à toi ? Si tu voyais de loin, Vincent. Mais moi, je serais ravi. Le problème, c'est que tu vois pas de loin. Et en plus, tu es toujours à prêter des intentions aux autres, comme si tu habitais dans leur tête. Et ça, je suis pas d'accord avec toi.
Il a la même rage que moi. Oui. Et il a les couilles de se battre contre moi.
Mais il veut pas. Alors il faut... Mais c'est comme l'amour, Vincent. Il faut qu'on soit à deux, d'accord. Si je veux me battre avec quelqu'un qui veut pas se battre avec moi, je fais du mal. Ça, on s'en sort pas. C'est comme ça. Et ce n'est pas juste. Et c'est quelque chose que tu as déjà vécu, Vincent. Dans le passé, tu as vécu des gens qui voulaient te tanner et toi, tu voulais pas te battre et tu n'avais pas les moyens de te battre et tu t'es fait tanner. On continuera, on va pas se décourager, mais les choses sont en train de nous échapper de par ton fait. Hein. De par ton fait, ça sera pas la faute des adultes, ça sera la faute de personne. De par ton fait que tu comprennes pas que l'endroit où ça marche le mieux pour toi, l'endroit où il y a des adultes qui sont disponibles pour causer avec toi, l'endroit où tu peux vraiment faire des bêtises et puis on te reprend et on rediscute, l'endroit où tu peux oublier 20 fois ton journal de classe, l'endroit où tu peux arriver 3 jours après sans avoir prévenu et on dit il n'y a pas de souci, t'as ta place, c'est ici. Et donc les endroits où ça va bien, tu les exploses. Les endroits où ça va pas bien, tu les exploses pas. Tu les entretiens. Et ça, c'est quelque chose de malheureux, je trouve. Tu es en train de changer. De victime, tu es en train de devenir bourreau. Tu dis, j'ai encaissé, on m'a tanné, mais maintenant c'est mon tour.
Qui vous dit que j'ai souffert ? Qui vous dit que je suis pas encore en train de souffrir ?
Que tu as souffert, parce qu'on a la chance.
Tu vois, si je devais être bourreau, tu vois tous ceux qui m'auraient dit juste ta gueule depuis le début de l'année. Je crois que tout ce snark, je les aurais tous démontés.
Tu sais pourquoi t'es encore là ? Parce que tu n'es pas que bourreau.
Mais voilà. Donc
on est sûr, pas dire que je suis un bourreau alors.
Non, je dis que tu as la tentation. Et tu n'es pas le seul ici.
Je prends la tentation, c'est juste que j'aime pas me faire marcher sur les pieds.
Ça, tu as bien raison. Mais il faut rester proportionné. Tu comprends ? Si je passe et j'ai marché sur ton pied alors que tu viens de cirer tes chaussures et que tu sors une batte de baseball, c'est disproportionné. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu es dans la disproportion. Maintenant, tu crois que moi, je veux dire que tu n'es qu'un sale type, un salaud, une crapule, un bourreau ?
Non.
Est-ce que je dis qu'il y a un risque ? Oui.
Autrement, j'avais aussi envie donc, de parler du rapport entre les élèves et les profs et de cette question de l'autogestion, puisque finalement, quand on regarde en fait, le synopsis du film, tu l'annonces comme un film sur l'autogestion. Et au final, c'est vrai que ça passe plutôt au second plan. Enfin, en tout cas, c'est une impression qu'on peut avoir à regarder le film. En tout cas, on se pose des questions sur les, donc, comment fonctionne ce lycée ou cette école, je ne sais pas comment l'appeler. Et les rapports, il y a beaucoup de questionnements autour de l'éducation, de la violence des élèves et le rapport entre les élèves et puis les éducateurs.
Alors, j'annonce pas le film comme un film sur l'autogestion. C'était mon projet au départ, mais ça n'est plus à l'arrivée. Il y a un carton au départ du film qui dit le SNARC s'inscrivait à sa création comme un projet d'éducation non répressive et d'autogestion. S'inscrivait. Le projet, il existe encore. Hein, il y a toujours quelque chose qui subsiste de ça, mais c'était très compliqué à cette époque-là. Et moi, j'avais pas ma place dans le lieu pour filmer ça, parce que très vite, on m'a fait sentir que ça allait pas être possible. Et en tout cas, ceux qui incarnaient vraiment qui voulaient remettre en question cet héritage-là, ils ont pas accepté d'être filmés dans ces conditions-là. Donc, j'avais plus la possibilité de faire ce film. Donc, ça infuse un petit peu le film. On sent qu'il y a quelque chose comme ça d'assez libre dans la parole, dans le rapport des adultes entre eux, dans le rapport aux tâches aussi, où on voit un coup quelqu'un qui est prof, quelqu'un qui a la vaisselle, qui fait d'autres choses. Voilà. C'est des choses qui se rapportent plus à la psychothérapie institutionnelle. On sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce n'est pas le propos du film. Le film, il parle de la relation jeune-adulte et au-delà du cadre du SNARC. Et puis de la difficulté du travail social. Moi, je me suis mis... ne sachant plus que faire, je me suis mis un petit peu entre les jeunes et les adultes, en essayant de voir, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se raconte. Et effectivement, il y a de la violence, effectivement, c'est dur, effectivement, il y a des adultes qui sont en difficulté avec les outils, avec leurs bonnes intentions, et des outils qu'ils ont, qui ont leurs limites, et voilà, et malgré tout, avec le temps, il y a des choses qui se créent, voilà. J'ai essayé de parler un petit peu de cette question du travail de l'éducateur, et puis de la souffrance adolescente dans ce type de lieu.
Et on voit aussi beaucoup cette question de l'exclusion, est-ce qu'on garde ou pas tel jeune qui met en difficulté tout le collectif ?
Ouais, bien sûr, c'est le SNARC est complètement pris dans son époque, hein, on voit que le seuil de tolérance à la violence a énormément diminué. Et moi, les anciens me racontaient, mais dans les années 70, années 80, mais tous les jours, on se tapait dessus, il y avait des carreaux cassés, etc. Voilà, aujourd'hui, ça n'avait plus rien à voir. Mais par contre, un jeune qui pose problème pour des types de questions de violence, en tout cas, tout de suite, ça pose vraiment problème à l'institution. Parce que le seuil de tolérance à la violence a diminué, et les travailleurs du SNARC sont complètement pris dans ce mouvement. Et il se trouve que cette année, ça a été une année très très dure. Que le projet n'a pas pris parce qu'il y a eu énormément de nouveaux jeunes qui sont arrivés à la rentrée. Qu'il y avait beaucoup de jeunes très très jeunes, pas d'anciens qui ont fait la transmission. Et moi, par rapport à l'époque où j'avais connu le lieu, où c'était extrêmement doux et il y avait beaucoup d'amour... Alors même si c'est un gros mot un petit peu dans le milieu de l'éducation, parce qu'on n'est pas censé faire trop de place à l'affectif, il y a quelque chose de très fort comme ça qui se passait. Et là, c'était très dur. Et donc, voilà, il y a eu plusieurs exécutions de jeunes pour des questions de violence, et vraiment aussi parce que, en tout cas, les adultes ont estimé que leur comportement mettait en péril l'institution, au sens où ils n'arrivaient pas à travailler avec les autres. Et je ne peux que regretter ça. En tout cas, le film... montre ça sans poser de jugement là-dessus. C'est parce que je cherche ni à les sauver, ni à les condamner par rapport à ça. Ils sont aussi malheureusement le reflet d'une époque.
Il vient d'avoir un incident grave. Vincent a frappé avec une béquille sur un adulte, là. Ben oui, et voilà, hein, donc... Oui, voilà, enfin... voilà, on a essayé... Enfin voilà, ça s'est mal passé, donc j'avais téléphoné justement à madame. Et en laissant le message qu'elle nous rappelle le plus vite possible, parce que là, évidemment, il va falloir qu'il rentre tout de suite. Hein. Vous comprenez bien, monsieur, que... Mais là, on doit vraiment marquer l'arrêt, parce que c'est... heureusement, le collègue est quelqu'un qui se maîtrise très, très bien, mais il a quand même reçu un méchant coup.
Il m'a donné un coup de béquille. Moi, je voulais me convaincre moi-même... que c'était pas fait exprès, mais non, c'était volontaire. Alors, le gros souci, c'est l'acte. Le gros souci, c'est que la plupart des jeunes étaient là, que des adultes ont vu que c'était volontaire. Voilà, il y a une proposition qui sort, ce serait 15 jours ou 3 semaines d'écart. Et donc, à nous, petit comité, de pouvoir trancher. En tout cas, il ne peut pas ne rien avoir. C'est clair et net, sinon c'est du délire.
Lever la troisième fois, l'espace de quelques temps, les mains sous la redoute, c'est le danger qu'on ne doit pas courir tous les jours. Donc moi, je suis pour qu'on se libère de Vincent avec la mort dans l'âme, parce que je l'apprécie pas, hein, mais je sais qu'il y a du travail qu'on peut faire. À quel prix ?
On le sait depuis le mois de septembre que ça ne tiendra pas. Pareil pour Arnaud. Et on en arrive évidemment avant la fin du 1er janvier et on les renvoie. On n'en serait pas là si on ne les avait pas repris. Quand ça nous interroge quant au profil des jeunes qu'on garde ou qu'on ne garde pas chez nous. Je trouve qu'on a une part de responsabilité. Bien sûr, ce n'est pas nous qui avons donné un coup à Fabrizio. On est bien d'accord. Mais je veux dire, c'était la chronique d'un renvoi annoncé dès le mois de septembre. Ça doit vraiment nous interroger. Voilà. Je trouve qu'on ne peut pas se contenter de dire on le renvoie.
Avec le décès du grand-père, il me semble que la situation devient très déstructurée pour Vincent et que notre institution pouvait fonctionner avec un grand-père présent parce que c'était lui qui donnait encore un peu de cohérence et une certaine colonne vertébrale à Vincent. Et que maintenant, sans là, je pense qu'il faut trouver une institution qui puisse le garder, et oui, week-end compris, parce que sinon, c'est un jeune que même s'il est là la semaine, le week-end, c'est tellement les vacances qu'il va vers une délinquance très profonde. Et voilà, donc je pense que si on veut lui donner en plus des chances, peut-être de trouver la bonne voie, c'est avec un autre encadrement que le SNARC peut offrir. Donc c'est pour ça que moi, je motiverais le renvoi définitif.
Qui est favorable au principe d'une exclusion définitive pour Vincent.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oui, mais ça se tient. Qui s'oppose, donc chez moi personne. Voilà, voilà. Donc. Ça reste effectivement un échec pour nous aussi. Là, je rejoins Bernard.
Et ce qui est assez étonnant, mais je pense peut-être que c'est lié à la France. Enfin, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas pareil en France. Bon, déjà, il y a ce tutoiement. Et après, il y a cette affection dont tu parlais, enfin, que tu dis que tu n'as pas vu, mais nous, on le voit dans le film, en fait. Ils sont vraiment très proches physiquement, quoi. Il y a beaucoup de douceur aussi entre les éducateurs et les élèves.
Mais, alors, les éducateurs, ils vont toujours dire « Oui, mais non, il ne faut pas tomber dans l'affectif, etc. » Et moi, quand je suis arrivé au SNARC, c'est un truc qui dit ah oui, bien sûr, mais bon, sauf que bah nous on les aime bien ces gamins, et puis ils ont tellement pas d'affection dans leur famille ailleurs et tout, mais qui va leur donner si nous on leur donne pas? Donc, bah ouais, ils disent bah ouais, on est vachement dans l'affectif. Et moi, ça m'avait frappé quand j'étais arrivé. Il y avait des jeunes comme ça, de 15, 16, 17 ans, qui avaient des dossiers familiaux, mais vraiment hyper épais, qui étaient certains que c'était fait virer 9 écoles, qui avaient cassé des chaises sur la tête de leurs profs. Puis il y avait des. Voilà, le matin, ils arrivaient, les éducateurs arrivaient, ils se jetaient dans leurs bras, ils se faisaient bisous et tout. Et ils sentaient vraiment des trucs forts. Et puis des fois, ça pétait les plombs, mais. Ça, c'est ma famille, ça, c'est. Ma maison, c'est pas le week-end quand je rentre chez moi, non, c'est quand je retourne dans l'institution. L'année où j'ai filmé, c'était moins présent, mais effectivement, on le sent quand même dans le film. Il y a, le matin, voilà, on se fait la bise, quoi. Et puis on se dit bonne nuit, et puis il y a un truc comme ça. Et puis même on va les border, quoi, dans leur lit, parce que ça leur fait plaisir, et puis que ça fait plaisir aussi sans doute aux adultes. Alors c'est peut-être pas forcément correct d'un point de vue d'une certaine façon de faire dans les milieux de l'éducation, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne au SNARC. Ils sont forts de l'affectif, comme ils disent les Belges. Et en tout cas, ça m'a touché, et je pense que ça a donné de la matière au film aussi.
Parce qu'un humain qui est toujours content et qui ne pète jamais de câble, c'est un fou. Sans vouloir être méchant, c'est un fou. Parce qu'on pète tous un jour un câble. Que ce soit quand on est un an ou quand on est 80 ans, on pète tous un câble un jour. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'est pas des hommes. Sinon, on se tente d'être parfait,
Et là, on garde tout. Et on meurt avec un fardeau, mais ainsi, quoi. Donc, c'est pas évident. Moi, dès que j'ai un truc à lâcher, je le lâche. Quitte après à me ramasser des tartes dans la figure, mais bon. Bon, moi, je le lâche. Damien était le nom que normalement j'aurais dû avoir. Et ma mamie et mon papy n'aimaient pas. Alors ma mère a décidé de m'appeler autrement. Alors elle a entendu par une amie le nom Sullivan. Elle a trouvé ça beau. Parce que Sullivan, c'est pas un nom qu'on entend souvent. Oui, il y a un film qui est Monster Echo où il y a un Sullivan dedans. On n'entend pas souvent Sullivan. Alors elle a décidé ce nom, ce prénom, à la place de Damien. Alors ça fait Sullivan Damien. Et David, c'est le nom de mon père qui est décédé. Donc je suis content d'avoir ces trois prénoms. C'est comme si son corps était en moi maintenant.
Il y a aussi quelque chose qui est très beau dans le film, qui structure le film, j'imagine, c'est les images donc, de l'établissement à différentes saisons, des images de nature, parce que ça se passe à la campagne. Enfin, je trouve que c'est des scènes quand même très belles.
Ouais, alors ça, en fait, ça se passe pas du tout à la campagne, ça se passe dans un milieu au contraire qui est très urbanisé. C'est le film justement donne cette image-là, mais je comprends que tu tombes dans le panneau. Mais c'est au pied d'un coron, quoi, vraiment. Mais sauf que c'était le bâtiment, c'était le bâtiment des cadres de la mine, qui était un petit peu à l'écart et qui était au milieu d'un bois. Donc voilà, il y a ce bois comme ça qui est autour, et moi que je filme beaucoup, et où les gamins, ils ont la liberté d'aller, d'errer, c'est pas clôturé, donc ils se barrent tout le temps, et puis comme personne ne leur court après, bah, ils reviennent. Voilà, et donc il y a cette liberté-là, la porte n'est jamais fermée au Snark. Donc ça fugue, mais ça revient parce que oh bah, on court pas après, bah merde, donc j'entends. C'est très marrant, et ça fait vraiment partie du projet thérapeutique, quoi. Et voilà, j'ai essayé de faire un travail un petit peu sur le temps qui passe, parce que le temps qui passe, c'est aussi c'est les saisons, les feuilles qui tombent, la neige qui tombe, le printemps qui arrive. Et c'est aussi le temps du travail de l'éducateur, quoi, et le temps de la relation, et le temps de l'adolescence, qui en même temps, les gamins, entre le début du film et la fin du film, même physiquement, ils ont changé. Il y a vraiment une question du temps qui est très forte, et puis à un moment, c'est un pétage de plomb intégral d'un gamin, et puis un mois après, il y a peut-être un truc qui s'est passé, c'est complètement insaisissable. Mais en tout cas, je sais pas, en filmant effectivement ces paysages qui changent du lieu... C'est de l'ordre de l'indicible, mais j'ai l'impression d'accrocher quelque chose, quoi, qui sert aussi de respiration dans le film, hein, de façon tout à fait concrète.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Snark, ou la chasse au Snark, parce que c'est le titre du film, et Snark, c'est le nom du lycée.
Le lieu s'appelle le Snark, et c'est une référence à un texte de Lewis Carroll qui s'appelle La chasse au Snark. Et ça raconte... la chasse d'un animal mythique qui pourrait être le dahu en français, qui n'existe pas, enfin on ne sait pas trop s'il existe, personne ne l'a jamais vu, et c'est un groupe de chasseurs complètement improbable qui se met en quête du Snark, et quand il croit le voir, en fait c'est pas lui, quand il croit qu'ils l'ont attrapé, c'est encore un autre, ou il s'est échappé, etc. Donc c'est la quête de l'inaccessible, c'est la quête de l'impossible. Et quand ils ont créé le lieu en 73, je pense qu'ils avaient cette idée-là en tête, quoi. Moi, j'ai voulu revenir au texte de Carroll en appelant le film La chasse au Snark, parce que le film, il raconte ça. Il raconte des jeunes qui courent après quelque chose, on ne sait pas quoi, mais peut-être une sorte de bien-être, une sorte d'apaisement, des adultes qui courent après les jeunes. Alors le Snark, ça peut être l'adolescent comme ça, en souffrance, qui est une espèce de bête un peu monstrueuse, mais qui est au moment où on croit qu'on a fabriqué quelque chose, et ben non, ça se casse la gueule, et puis au moment où on a baissé les bras, mais il y a quelque chose qui se passe. Enfin, c'est le travail vraiment éducatif, quoi, qui est pas quantifiable, qui est pas matériel, c'est quelque chose de l'ordre vraiment de l'immatériel. Et bon, là, on peut aussi, il y en a d'autres qui m'ont dit, bah ouais, mais c'est le c'est l'indicible, c'est ce qui ne peut pas se dire dans cette parole, parce qu'il y a beaucoup de situations d'échec, de paroles, de dialogue entre jeunes et adultes, où on se renvoie la balle et au final ça ne donne rien, et puis le snark c'est un peu ça, c'est qu'on court après ça et ça ne marche pas. Et c'est aussi et il y en a qui disent c'est aussi le père, parce que finalement tous les jeunes qui à un moment commencent à déballer leur histoire, il y a toujours un père absent. Il y a toujours un père violent ou qui est pas là, ou qui est en prison, ou qui est voilà, c'est le snark, c'est aussi ça, c'est le père absent. Voilà, il y a plein de choses. Moi, j'ai pas envie en tout cas de donner une explication définitive, mais il me semble que ce titre-là, ça racontait la matière de mon film.
Alors, est-ce que tu sais si le film va être diffusé prochainement, je sais pas, en région parisienne par exemple?
Il va faire un petit tour de festival, j'espère. Je pense que là, pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. On essaie de travailler sur une sortie en salle qui sera forcément confidentielle, parce que c'est un peu le sort des films documentaires, hein, ça sort rarement dans plus de 3 ou 4 salles. Mais voilà, il continue sa vie, il commence sa vie de film, sans télé, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des réseaux associatifs, des festivals qui diffusent. Bon, ça s'adresse à un public toujours limité, mais ça permet à un film de vivre, quoi.
Je te remercie.